Je vais vous parler d'un livre de Frédéric Gros qui s'appelle « Désobéir ». Alors Frédéric Gros est un philosophe français, connu je crois un peu sur la scène médiatique. Il est spécialiste de Michel Foucault et il est professeur de pensée politique à l'Institut d'études politiques de Paris, c'est-à-dire à Sciences Po. Il a écrit des ouvrages donc sur Foucault, bien évidemment, un que sais-je, en 1996. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Foucault, le courage de la vérité » en 2002. Il a écrit d'autres livres sur d'autres sujets, « État de violence, essai sur la fin de la guerre » en 2006, « Marché, une philosophie » en 2008, « Le principe sécurité » en 2012, un livre qui s'appelle « Posséder » en 2016 et enfin Désobéir en 2017. Alors globalement c'est un livre intéressant à lire, relativement facile à lire, peut-être pas aussi facile que ça à résumer, et qui parle donc de la désobéissance mais aussi et surtout de l'obéissance. Alors qu'est-ce que dit l'auteur dans son introduction générale ? Il dit la chose suivante, le monde va de travers, à tel point que lui désobéir devrait être une urgence partagée et brûlante. Alors dans ce livre, Frédéric Gros interroge les racines de l'obéissance politique, conformisme social, soumission économique, respect des autorités, consentement républicain. C'est en repérant les styles d'obéissance qu'on se donne les moyens d'étudier, d'inventer, de provoquer de nouvelles formes de désobéissance qu'il appelle la dissidence civique. Rien ne doit aller de soi, ni les certitudes apprises, ni les conventions sociales, ni les injustices économiques, ni les convictions morales. La pensée philosophique, en même temps qu'elle nous enjoint de ne jamais céder aux évidences et aux généralités, nous fait retrouver le sens de la responsabilité politique. Désobéir devient une affirmation d'humanité. Philosopher, autrement dit, c'est désobéir. Ce livre en appelle à une démocratie critique et à la résistance éthique. Hannah Arendt, en 1967, a dit la chose suivante. Pendant des siècles, les hommes ont été punis pour avoir désobéi. À Nuremberg, pour la première fois, des hommes ont été punis pour avoir obéi. Pendant des siècles, en effet, l'obéissance a été pensée comme ce qui nous humanise. Kant, dans ses réflexions sur l'éducation, avait déjà fait la distinction entre l'instruction et la discipline. L'instruction est, dans un cadre pédagogique, l'apprentissage de l'autonomie par l'acquisition d'un jugement critique. C'est pour parvenir à cela, il faut un premier moment de docilité aveugle qu'il appelle la discipline. C'est sur la base d'une obéissance aveugle qu'on devient vraiment homme. Cette obéissance aveugle prépare le futur sujet politique à accepter des lois avec lesquelles il ne serait pas d'accord. Donc l'obéissance a été pensée comme ce qui nous humanise par rapport à la spontanéité sauvage de l'enfant. Alors, les crimes du XXe siècle montrent au contraire que la désobéissance aurait pu rendre humains les gestionnaires impeccables du crime et de l'horreur. Nous avons eu affaire à des monstres d'obéissance. Alors, pour analyser la problématique obéissance-désobéissance, l'auteur nous propose trois temps. 1. D'étudier diverses figures d'obéissance et de désobéissance. 2. D'examiner la manière dont chacun se rapporte à lui-même, construit à soi un certain rapport depuis lequel il s'autorise à accomplir telle chose, à faire ceci plutôt que cela. Et en troisième lieu, dernier, de proposer l'idée d'une démocratie critique avec une proposition de dissidence civique. Alors les figures, première partie, les figures de l'obéissance. On va en prendre deux. En partant d'abord d'un texte de la Boétie, l'ami de Montaigne, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Contre 1, c'est-à-dire contre le numéro 1 d'un pays, c'est-à-dire contre le tyran. Alors ça a donné le discours de la servitude volontaire, hein, qu'on connaît bien, rédigé en 1574. Alors, la servitude volontaire, la Boétie a renversé un peu les paradigmes. Jusqu'alors, le discours classique était de critiquer les tyrans était du côté de, non, oui, était de critiquer la responsabilité de la tyrannie du côté des tyrannisés et non de la violence du tyran. Il y a une servitude volontaire. Une élite minuscule domine l'immense majorité, un autocrate à lui seul tient sous son poing des populations entières. Et la Boétie n'appelle pas d'abord à la lutte contre le tyran, mais à la lutte contre notre désir d'obéir. Il ne s'agit pas de se révolter, mais d'arrêter d'obéir. Car la liberté, il suffit de la désirer pour aussitôt l'obtenir. C'est ce que dit la Boétie. Le deuxième point, la deuxième caractéristique de l'obéissance, c'est la construction pyramidale de la tyrannie. Il y a une construction pyramidale de la soumission. Chacun obéit à son supérieur hiérarchique, jusqu'au tyran qui lui seul décide. On peut dire aussi que chacun est le tyran d'un autre, de sorte que le rapport d'obéissance ne forme pas deux groupes séparés, dirigeants contre dirigés, mais deux groupes complices où chacun peut être le tyran d'un autre. Dans toute la hiérarchie du tyran jusqu'au dernier, chacun est un peu le tyran de l'autre et ça forme un bloc qui s'auto-construit ou qui s'auto-solidifie dans la chaîne. Le troisième aspect de la soumission, c'est la coutume. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Chacun aligne son comportement sur celui des autres. On obéit par conformisme. Et là, l'auteur nous propose un récit. On saute de la Boétie, du siècle de la Boétie au XXe siècle. C'est un passage que je vais vous lire rapidement. Dans un livre qui s'appelle Sur des hommes ordinaires, Christophe Browning retrouve et interroge un bataillon d'individus chargés dans le cadre de la solution finale du massacre de Juifs dans de petites villes de Pologne. On ne trouve pas là des nazis encartés, engagés et fanatisés, mais des réservistes, des rappelés, âgés en moyenne d'une quarantaine d'années, de conditions modestes, le plus souvent pères de famille, ouvriers ou petits employés. Une scène terrible ouvre le livre. Début juillet 1942, le bataillon est envoyé dans une ville de Pologne. Sa mission, sur une population juive de 1800 individus, retenir 300 hommes valides et tuer tous les autres, enfants, femmes, vieillards, malades. Quand le commandant prend connaissance des ordres, il est saisi d'effroi. En bon officier pourtant, il accepte sa mission, rassemble tous ses hommes, quelques centaines, et les met en position de choisir. Après avoir, d'une voix un peu tremblante, exposé le contenu de la mission, il demande à ceux qui la refuseraient de bien vouloir faire un pas en avant en indiquant qu'ils ne seront pas massacrés. Moment crucial. Chacun sans doute regarde l'autre, évalue, attend quelque chose comme une affirmation collective. Une petite dizaine seulement se détache du groupe pour manifester un refus. Pas assez, les autres demeurent pris dans la glu des autres, empêchés par le boulet invisible et pesant de l'inertie collective, prisonniers de la masse, pris dans la nasse. Chacun captif de ses autres qui n'existera pas sans chacun d'entre eux. Donc l'auteur conclut la chose suivante, c'est qu'il est difficile d'avoir raison contre tous sous le regard des autres. Le poids du groupe incite au conformisme. On est victime de l'opinion des autres. Il en conclut avec Durkheim que la société, c'est un système de jugement dont il ne fait pas bon de s'écarter. Deuxième exemple d'obéissance, c'est le cas d'Adolf Eichmann, qui est bien connu. L'année 1961 est l'année du jugement d'Adolf Eichmann. Ce chapitre pourrait s'intituler « L'obéissance ou l'irresponsabilité ». Quand j'obéis, je ne suis l'auteur de rien. Eichmann est devenu la référence incontournable pour penser les rapports entre responsabilité et obéissance. Eichmann, d'après l'auteur, n'a été ni un être satanique, ni un minable broyé par la machine nazie, mais un administratif zélé des convois de la mort. Pourquoi? Et là, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, soit Eichmann appartient à une noirceur morale, métaphysique, irréductible. comme le péché originel chez saint Augustin, le mal radical chez Kant, le mal à la racine de l'homme chez Kant, et la pulsion de mort chez Freud. Soit il appartient à un monde bureaucratique qui fabrique des individus moralement anesthésiés, car il est physiquement et mentalement coupé de la catastrophe humaine qu'il provoque chaque jour. En effet, Eichmann était chargé de l'organisation des convois, mais il ne voyait pas directement les personnes qu'il déplaçait. Soit, et c'est sans doute la position de l'auteur, c'est la bêtise de la position d'Eichmann qui à la fois considérait à titre personnel la solution finale comme un acte monstrueux, mais qu'il devait obéir au nom de son serment de loyauté initiale à l'égard d'Hitler. La bêtise, au sens où l'entend Hannah Arendt, c'est l'absence de jugement. Et ce qui fait la difficulté de la position d'Hannah Arendt, c'est qu'elle dit que c'est une capacité universelle en chacun de nous à se rendre soi-même aveugle et bête, à s'entêter, à ne pas vouloir savoir. Donc après ces deux exemples sur l'obéissance, on va passer à la désobéissance. Il y aura deux exemples. Premier exemple qu'on va chercher dans l'Antiquité grecque avec Antigone. Antigone, héroïne de la désobéissance. Alors je rappelle que Créon avait interdit que le corps du frère d'Antigone ne devait pas recevoir les prières rituelles et ne devait pas être enterré, parce qu'il s'était opposé à Créon. Antigone brave l'interdiction, et le tyran découvre avec effroi la traîtrise dans sa propre parentèle, sa nièce, la fille d'Œdipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Antigone justifie sa désobéissance, car le décret de Créon va à l'encontre des lois supérieures, des lois non écrites, éternelles, dont fait partie l'obligation d'enterrer un mort. Le décret de Créon ne tient pas devant cela. C'est l'opposition entre la légalité et la légitimité. Il y a désobéissance par rapport à la loi, mais obéissance par rapport à la légitimité. La légitimité est basée sur des lois non écrites qui correspondent aux droits fondamentaux de l'humanité, les principes de justice universelle qui vont à l'encontre des décrets et des lois politiques. Donc, pour Hegel, il s'agit d'un conflit entre des prétentions égales, d'où un conflit impossible à résoudre. Deuxième exemple, et là on passe de l'Antiquité grecque au XIXe siècle, avec un philosophe, naturaliste et poète américain, 1817-1862, je veux parler d'Henri David Thoreau, qui est né à Concorde aux États-Unis, auteur d'une œuvre majeure qui s'appelle Walden, ou la vie dans les bois, où il propose de revenir à une existence naturelle en autarcie, et sa vie et son œuvre représentent la tentation de vivre de façon sauvage, c'est la critique de la technique et la dénonciation des aliénations économiques, sociales et culturelles. Il est devenu le symbole de la rupture. Alors pour l'anecdote, il est célèbre pour avoir refusé de payer l'impôt, et refuser ainsi de soutenir financièrement la guerre qu'il juge injuste déclarée au Mexique après l'annexion du Texas, et surtout, il refuse l'esclavage. Il ne passera qu'une nuit en prison, et son impôt ayant été réglé par un tiers, de cet épisode, il résultera une conférence qui s'intitule « La désobéissance civile ». Que dit Thoreau ? Il dit que la priorité n'est pas l'obéissance aux lois, mais la sauvegarde de ses propres principes lorsque l'État prend des décisions iniques ou s'engage dans des politiques injustes. En définitive, et c'est là il y a un renversement, la désobéissance n'est pas un droit, mais un devoir. La supériorité éthique est supérieure à la majorité numérique. Il faut entrer en dissidence civique pour la justice et la dignité des autres. Alors ces quatre exemples, deux de d'obéissance et deux de désobéissance, amènent à son message ou à l'idée qu'il développe d'obligation éthique, que je vais aborder sous plusieurs angles. Tout d'abord, l'angle du rapport à soi. Comme je le disais dans l'introduction, l'auteur se propose d'étudier la manière dont chacun se rapporte à lui-même, construit à soi un rapport depuis lequel il s'autorise à accomplir telle ou telle chose, à faire ceci plutôt que cela. Il parle d'éthique du sujet. À partir de quel rapport à soi respecte-t-on ou transgresse-t-on la loi ? Alors, je vais donner un exemple qui permet, de comprendre. Ne pas tuer, par exemple, ce n'est pas tellement respecter l'interdiction de tuer, mais permet de ne pas vivre avec soi comme assassin. C'est la source de l'obligation éthique. Ce rapport à soi est indélégable, car chacun fait l'expérience de l'impossibilité de déléguer aux autres le souci du monde. Deuxième angle d'attaque de l'obligation éthique, le rapport à la liberté. Obéir ou désobéir, c'est donner forme à sa liberté. Pourquoi ? Car la désobéissance suppose d'exercer sa liberté, et la liberté est souvent un insupportable fardeau. Être libre, c'est d'abord s'émanciper du désir d'obéir, car l'obéissance permet d'accéder au confort de ne pas être responsable. Mais, il y a plein de balancements là, mais la subordination peut relever de la reconnaissance de l'autorité ou de la supériorité réelle de l'instance qui commande. Cela est donc différent de l'obéissance passive. Tout consentement suppose un dessaisissement. Consentir, c'est accepter librement de limiter sa liberté, voire d'y renoncer. Je me plie aux ordres d'un autre, mais depuis ma décision propre. C'est pourquoi il n'y a pas soumission, mais volonté libre d'obéir. Ça nous amène au troisième aspect, le rapport à la démocratie. Avec le consentement, on trouve un style d'obéissance proprement politique. Car l'obéissance consentie et lucide est ce qui rend possible le vivre ensemble et fonde le pacte social. A l'inverse, la désobéissance risque d'entraîner l'anarchie. Alors, l'obéissance aux lois dans un système démocratique rend-il la désobéissance illégitime ? La désobéissance, c'est au fond préférer son intérêt égoïste à celui de la volonté générale qui apparaît comme un nouveau tyran. Mais la désobéissance peut s'inscrire dans l'idée d'une société plus juste et plus égale au nom d'un monde plus fraternel. La désobéissance peut donc s'inscrire également dans une exigence de liberté, d'égalité, de solidarité. C'est ce que l'auteur appelle de ses voeux la démocratie critique. Le rapport à la dissidence civique. Alors là, il faut passer un tout petit peu par Kant, où on parle de majorité et de minorité. Alors la majorité, c'est une capacité, c'est la capacité d'émancipation et d'indépendance et d'autonomie. Par exemple, savoir se donner des règles de santé et de bonne existence sans nécessairement attendre l'avis du médecin. La minorité, tout au contraire, c'est se laisser imposer par un autre ses pensées, ses actes et sa conduite. Donc la majorité, c'est penser par soi-même, exercer son propre jugement et demeurer dans une vigilance critique. Pour passer de la minorité à la majorité, il faut uniquement du courage, selon Kant. Courage de penser en son nom propre. Ce courage peut conduire à la dissidence civique quand on est conduit à désobéir par impossibilité éthique, quand on ne peut faire autrement que de désobéir. Le dissident civique prend tout d'un coup conscience de l'intolérable, et la soumission se définit par l'impossibilité de désobéir, et le dissident fait preuve de l'impossibilité de continuer à obéir. Et l'auteur conclut par un chapitre qu'il appelle « La responsabilité sans limite ». Le concept de responsabilité globale ou responsabilité du monde, c'est l'idée que nous sommes solidaires des injustices produites ici ou là, solidaires en ce sens qu'il n'est pas possible de faire comme si elles ne nous concernaient pas. Chacun porte en soi le souci du monde. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.